Si.
C'est leur odeur personnelle qui...
Grand reportage.
Qui faisait que ce bisou, il avait une valeur... encore plus importante.
Cette émission est une rediffusion.
C'est un mot que le Covid-19 a presque rendu populaire, l'anosmie, l'absence d'odorat. Selon les scientifiques, entre 5 et 10% de la population aurait un odorat défaillant, un chiffre en augmentation avec le vieillissement de la population. Une pathologie qui s'accompagne d'une perte à 80% du goût, qui peut causer des troubles dépressifs et des accidents domestiques. L'anosmie, devenue symptôme du coronavirus, fait désormais les titres des journaux, sans que l'on sache encore exactement pourquoi le Covid-19 se manifeste ainsi, ni comment sera l'odorat et le goût des patients touchés. Anosmique de naissance ou par accident, pour une durée limitée ou toute la vie, c'est un grand reportage de Gabriel Maréchaux.
Comme chaque week-end, depuis qu'il est père de famille, Jean-Michel Maillard cuisine.
Aujourd'hui, ça va être des petites cassolettes de filet de sabre avec une petite préparation, avec un peu de couleur. Il y a des pommes de terre, il y a du brocoli, il y a des oignons rouges, il y a des carottes, il y a des haricots verts.
Les couleurs sont encore là, mais les odeurs de ce plat qui mijote, Jean-Michel ne les sent plus. Et quand le repas sera servi, il n'aura presque aucun goût pour lui. Il y a 3 ans, après un traumatisme crânien, la partie de son cerveau responsable de l'odorat a été endommagée.
Il y a une absence de plaisir qui est très frustrante au début. Je cuisinais plus du tout et puis finalement, je cuisinais surtout pour les autres. Donc mes fils m'ont bien aidé, ma femme m'a bien aidé à me demander des plats.
La nouvelle vie sans goût et sans odeur de Jean-Michel, c'est sa femme Linda qui en a été le premier témoin.
J'ai bien vu que c'était vraiment une très grande souffrance. Je me suis très vite rendu compte que c'était quelque chose qui lui faisait énormément de mal dans toutes les petites choses du quotidien. Petit à petit, j'ai essayé de remplacer son nez pour, je sais pas moi, par exemple, lui dire si un vêtement sent mauvais ou, enfin voilà, faut le laver parce que tu peux pas le remettre. Je l'ai aidé aussi pour le choix de son parfum puisqu'il voulait continuer à mettre du parfum.
Mais avant d'apprendre à vivre sans goût et sans odeur, il a d'abord fallu établir ce diagnostic, une première étape déjà difficile, se rappelle Jean-Michel, après cette chute banale, il y a bientôt 4 ans.
Alors cette chute se déroule en pleine nuit, minuit et quart. Mon épouse a appelé les secours. J'ai été transporté aux urgences et puis là on m'a fait des tas de tests qui n'ont rien à voir avec l'odorat puisqu'on n'en a pas parlé et on n'en parlera pas pendant au moins une quinzaine de jours. Plutôt des tests cardiaques, analyse de sang, etc. Et puis des allers-retours aux urgences, et pour finir par une IRM qui signale un hématome au cerveau. Et à ce moment-là, toujours pas de questions sur l'odorat. C'est moi qui m'en suis aperçu dans mon sous-sol, tout seul. Parce que je commençais à être perturbé un petit peu. Un jour, je me suis dit, mince, c'est bizarre, je ne sens plus rien. Et j'ai voulu contrôler que c'était bien... que c'était pas une hallucination. Et j'ai brûlé un bout de caoutchouc dans mon sous-sol, vraiment en me plaçant juste au-dessus. Et effectivement, il y avait absolument rien du tout, quoi. Absolument rien du tout. Donc, c'est là que j'ai découvert que je pouvais perdre l'odorat, parce que je ne suis pas sûr que je savais. Et puis, j'enchaînais après des rendez-vous de spécialistes qui, eux-mêmes, ne savaient pas trop non plus. Ça va revenir ou pas, on ne sait pas trop, etc. Les premiers mois, il y a déjà beaucoup d'espoir, parce que l'ORL ne ferme pas totalement la porte. Vous avez perdu un sens, quasi même deux, mais, on ne sait jamais, mais on a déjà vu, mais, bon. Donc, vous mettez beaucoup d'énergie personnelle, interne, à essayer de retrouver ce sens, puis ça devient épuisant. Et en plus, l'anosmie est un handicap qui s'installe mois après mois, année après année. Se priver d'odorat pendant 15 jours, un mois, c'est pas très grave. Plutôt, c'est gênant. Mais être privé d'odorat pendant 6 mois, pendant un an, c'est à ce moment-là que vous ressentez vraiment les effets, puisque vous n'avez plus toutes ces odeurs quotidiennes qui viennent vous aider, qui viennent vous égayer, qui viennent vous protéger, qui vous rassurent. Donc c'est... Et puis, 4 à 5 mois plus tard, hein, c'était le 1er mars 2016, où là, mon ORL m'a dit non, vous ne retrouverez pas l'odorat. Et il y a un impact aussi sur le goût. Donc, évidemment, ces deux sens étant liés, vous avez perdu quasiment deux sens, quoi. La première année est une année très compliquée parce que on entre dans un univers qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, il faut perdre l'odorat pour le découvrir. Ce qui nous manque le plus, ce sont les odeurs de la vie. Ce sont les odeurs qui nous ont construits depuis tout petit. Ce sont les odeurs du printemps, du café, de l'eau sur le sol mouillé, l'odeur du vieux linge, l'odeur qui vous rassure quand vous sortez de votre douche. Et surtout, l'odeur de vos proches. Moi, je me suis aperçu un peu tardivement que je sentais mes enfants quand je les embrassais. Voilà, je regarde des photos où j'écrasais vraiment mon nez sur leurs joues ou dans leur cou. Et c'était pas simplement du contact, c'était c'est leur odeur personnelle qui faisait que ce bisou, il avait une valeur encore plus importante. Et c'est ça qui nous manque. C'est l'odeur du parfum de notre papa, c'est notre maman, c'est l'odeur, le parfum ou le corps de ma femme.
Et de la même manière que le cerveau d'une personne ayant récemment subi une amputation ressent encore des sensations dans le membre qu'elle a perdu, le cerveau de Jean-Michel, au début, a cru sentir encore.
J'ai eu des épisodes de ce qu'on appelle la fantosmie, c'est-à-dire de vous êtes trompé par votre cerveau, et d'un seul coup, vous avez l'impression que ça sent la fumée, que ça sent... ça sent le pot d'échappement, ça sent le printemps, ça sent le café. Et mes proches, à chaque fois, me disaient non, 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 ça sent rien du tout. C'est... Moi, je mets ça sur le compte de la sorte d'hallucination olfactive, quoi. Vous avez tellement envie que ça sente que... Et je n'en ai plus du tout maintenant. C'est pour ça que j'ai mis ça vraiment sur cette volonté, cette envie que j'avais de retrouver mon état initial. Quoi.
S'il a désormais accepté son anosmie, Jean-Michel sollicite aujourd'hui tous les nés autour de lui pour essayer de ne pas s'exclure du monde des odeurs et des senteurs.
Mes enfants, je leur demande, ils sont jeunes en plus, donc et tous ceux que je peux côtoyer dans mon travail, dans mes déplacements, j'aime bien, non pas les mettre en difficulté, mais pour moi ça fait partie de la sensibilisation que je me suis juré de faire sur l'odorat. Ça en fait partie, c'est « dis-moi ce que ça sent ». Il ne me dit pas « ça sent la mandarine ». C'est-à-dire... Et c'est là que je dis « c'est un sens qui défie le langage », parce que... on ne sait pas dire. Quel mot on utilise ? Si je vous demande de me décrire une couleur, vous allez dire, voilà, vous allez avoir un objet, vous allez utiliser les couleurs, vous allez utiliser les formes, vous allez... Voilà, si je vous demande de me décrire un son, vous allez me dire, il est aigu, il est grave, il est continu. Mais décris-moi une odeur. Ce sens est muet, quoi.
Un sens muet et une médecine pas très bavarde face à cette pathologie, car les solutions sont rares et jamais entièrement satisfaisantes, raconte l'ORL Robert Schwartz.
L'intérêt de la consultation avec un ORL, c'est vraiment expliquer, trouver déjà le bon diagnostic. Et après, si le traitement n'est pas curatif, il faut les rassurer, donc d'où l'intérêt du soutien psychologique. Mais après, on est des ORL et donc des humains, et donc on n'est pas magiciens.
Aujourd'hui, seulement certains types d'anosmiques peuvent être opérés sans garantie de pouvoir retrouver au mieux quelques pourcentages d'odorat.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, la crise du coronavirus aux États-Unis.
Au sommaire, le pic n'est toujours pas atteint et la pandémie de coronavirus a
désormais... En France, plus de 10 000 personnes.
Perte de goût, anosmie passagère, ces symptômes font désormais partie de la vie de 80% des malades européens du Covid-19. François Gruyé et sa femme l'ont rapidement découvert.
La menace du coronavirus...
J'ai eu un peu de fièvre, une nuit ou deux, et puis une journée, pas grand-chose. Et trois jours après, vers le 21, comme on ne pouvait pas sortir, une amie nous a amené du pain, un pain bio qu'elle trouvait très bon. Je l'ai goûté et je lui ai dit, on vend son pain, il n'est pas terrible. Et elle nous en fait des wagons sur son pain bio. J'ai mangé autre chose, et là j'ai réalisé que toute la nourriture, tout ce que je mangeais avait le même goût. Et lorsqu'on a commencé à perdre le goût, on n'arrive pas à très bien dire s'il n'y avait plus du goût du tout ou pas, parce que comme on associait la vue des aliments à leur goût, donc si on mangeait une banane, ben ça avait l'air d'avoir un goût de banane, mais on avait plus l'impression de se souvenir du goût que ça avait. Alors on s'est amusé, parce qu'on a quand même beaucoup de temps libre en ce moment, on a fait un test à l'aveugle. J'ai dit à mon épouse, tu vas goûter en fermant les yeux différents aliments. Donc je lui ai mis des câpres. Je les ai écrasés pour qu'elles ne reconnaissent pas la contexture de l'aliment. Donc j'ai écrasé des câpres dans un petit assiette, j'ai pris une sauce tomate, et le troisième, je ne sais plus, je pense que c'est pas de l'avocat. Je lui ai fait goûter les trois aliments à l'aveugle, elle était incapable de me dire ce que c'était.
Est-ce que cette perte de goût et d'odorat, ça a changé quelque chose dans votre façon de vous nourrir ?
La préparation des repas, c'est devenu très succinct, parce que lorsqu'on n'a plus de goût aux aliments, ça n'a plus eu vraiment beaucoup d'intérêt de manger, donc on mange parce qu'on a faim, et au bout de 3-4 cuillères ou fourchettes, on arrête. Donc on se fait des trucs tout simples, hein. On ne fait pas des grands plats.
Cela fait maintenant plus de 2 semaines, ça vous alarme ?
J'étais un peu inquiet, oui, de perdre ce goût, parce qu'on se rend compte à quel point c'est important. Normalement, on n'y fait pas attention, hein. Le goût, le toucher, la vue, c'est des sens naturels, et quand on en perd un, on est quand même vachement désorienté. Bon, j'étais quand même rassuré rapidement, parce que j'ai rien vu sur Internet de très grave, et en patientant, ça revient. Donc, ça revient déjà depuis hier. J'ai commencé réellement à avoir des sensations de goût. Aujourd'hui, c'est reparti, parce qu'en fait, ça fait un peu le yo-yo, ce virus. J'ai l'impression que c'est pour tous les symptômes. Mon épouse aussi a eu pas mal de symptômes, mais ça fait 3 semaines que ça dure. Un jour, ça va, le lendemain, ça va moins bien, et puis ça repart. Là, c'est un peu pareil, le goût revient, repart, recommence. Mais bon, faut patienter. Alors, on patiente.
Si les médecins assurent que les sens sont retrouvés en quelques semaines dans la plupart des anosmies liées au coronavirus, aucune étude au long cours n'a pu être effectuée à cause de l'arrivée fulgurante de cette épidémie.
Salut YouTube et bienvenue dans cette vidéo qui va encore une fois être un petit peu personnelle, mais je pense que c'est important d'en parler puisque nombre d'entre vous me posent la question ou ne le savent pas, alors que c'est quand même assez important. Je n'ai pas d'odorat.
Cette voix franche qui parle face caméra à ses abonnés, c'est celle de Maxime. À 30 ans, ce youtubeur et streamer parle sans gravité de son anosmie. Né avec une altération du bulbe olfactif, il n'a jamais senti d'odeur. Et en cet après-midi de printemps, assis sur le banc d'un parc de Reims où il habite, ni le gazon fraîchement coupé, ni la pluie qui vient de tomber n'ont d'odeur pour lui. Rien d'anormal pour un anosmique, même s'il lui a fallu attendre son adolescence pour se rendre compte de sa différence.
J'étais en voyage scolaire, c'était au collège, on était en Italie à Naples, et il se trouve qu'à Naples, la mafia gère les poubelles. Donc on est arrivé sur un port où il y avait des amoncellements pas possibles de poubelles, mais vraiment des montagnes quoi. Il y avait des poubelles de poissons en fait vidées, enfin de tripes de poissons je pense, et tout le monde a commencé vraiment à s'exprimer là-dessus, et il y en a qui ont commencé à vomir, et moi c'est là où je me suis dit, non, moi là tout ce que je ressens c'est juste, oui, l'air est un peu chaud, et du coup à ce moment-là je me suis dit, peut-être que je commençais à dire mais vous exagérez, c'est pas possible et tout. Et en fait je me suis rendu compte que non, j'avais pas du tout d'odorat. Donc j'ai été à l'hôpital pour faire un test en fait. Et l'hôpital était surchargé, donc on a vraiment fait ça dans une petite salle, la salle d'entretien. Et du coup le médecin était avec un interne et il m'a fait des petites fioles de tests. Donc il a commencé avec fraises, etc. Je sentais rien, et passé à citron, je sentais rien. Et à un moment, à côté, il y avait un énorme seau en fait d'entretien. Et il me fait, sentez là-dedans et dites-moi ce que vous sentez. Moi je mets la tête dans le seau, je respire un grand coup, je regarde, je fais rien. Et en fait c'était de l'ammoniaque. Et du coup il fait, c'est sûr, vous n'avez pas d'odorat.
Comme Maxime, beaucoup d'anosmiques de naissance mettent du temps à se rendre compte qu'ils n'ont pas d'odorat, car c'est un sens que l'on ne pense souvent pas à vérifier chez les enfants, mais aussi car un jeune anosmique se fera sa propre idée de ce que tout le monde appelle une odeur, Maxime le premier.
Par exemple, quand on va dans une vieille maison et que les gens font « Ah, ça sent le renfermé », par exemple, généralement, il fait chaud. Donc du coup, j'ai associé ça, frais, bonne odeur, mauvaise odeur, lourd. Après, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je me demande aussi, c'est comment j'ai pas pu me rendre compte pendant 14 ans, peut-être pas, mais pendant au moins une dizaine d'années, que j'avais pas d'odorat. Parce que c'est vraiment quelque chose, là, quotidiennement, J'y vais pas quotidiennement. On va me dire, ah mais tu sens pas ça, tu sens... Il y a des problèmes que je vais avoir ou des choses comme ça qui sont durs à te communiquer en fait. Par exemple, quand changer de t-shirt, c'est tout bête. Mais les gens en fait changent de t-shirt instinctivement parce que je le remarque, hein, ma copine fait ça, tout le monde fait ça. Vous sentez vos vêtements en fait, et je ne peux pas sentir mes vêtements, et surtout je n'ai aucune connaissance de réellement ce qu'est une odeur et comment on pue par exemple, quel degré est-ce que... Donc des fois je peux mettre un t-shirt une journée et ça va, des fois c'est deux jours, et puis des fois au bout d'une demi-journée ça sera mort parce que je ne sais pas pourquoi ma sueur va sentir mauvais, ou je ne sais pas comment ça marche en fait du tout. Il y a aussi le fait que par rapport à l'alimentation, j'ai tendance à manger trop vite parce que tout simplement je n'ai pas les arômes, et du coup ça passe très vite en fait. L'aspect c'est un peu comme quand on prend un chewing-gum, le goût du chewing-gum il passe vite, là c'est encore plus rapide pour moi parce qu'il n'y a pas du tout d'arôme. Donc du coup j'ai tendance à manger trop vite, ce qui n'est pas terrible quand on ne veut pas prendre du poids, parce que c'est pas une bonne hygiène de vie. Ça c'est vraiment, je dirais, un des problèmes. Après il y a aussi le fait que par exemple jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de gazinière chez moi, parce que c'est une crainte légère, mais c'est vrai que c'est quelque chose où, si je pouvais faire le choix, ayant habité tout seul pendant pas mal de temps, je préfère pas mourir de ça. Pareil, j'ai pas voulu d'animaux de compagnie parce que je peux pas gérer si ça me sent mauvais ou pas. Alors maintenant j'ai ma petite amie, donc on a des chats, mais c'est elle qui dit quand la litière pue ou des choses comme ça, ou quand il y a un problème par rapport à l'odeur. Mais par exemple, là récemment on regardait une série et d'un coup elle fait ah, il y a eu un truc avec la litière et tout, elle est sortie. Et effectivement, ils avaient fait n'importe quoi, enfin bref. Et moi, je pouvais pas le savoir, et je l'aurais même pas vu, en fait, parce que c'était vraiment un coin de la pièce, etc. Elle a pu le traquer d'une autre pièce et revenir à la source de l'odeur. Alors que, moi, pour moi, c'est genre un peu un truc de super-héros, ça fait un peu super-pouvoir, quoi. Voilà.
Si l'odorat est un super-pouvoir pour Maxime, les publicités pour des parfums appartiennent, elles, au registre de la science-fiction.
Ça a l'air d'être transcendant, on voit des gens qui... Enfin, il y a toujours un côté très sensuel, d'ailleurs, dedans, et ouais, c'est incompréhensible, en fait, parce que c'est vraiment un monde, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vivre un truc oufissime, qui est inexplicable, et moi, c'est vraiment de la presse de la science-fiction, en fait.
Vous pensez à ce que ça a une odeur? Et comment est-ce que vous imaginez ça?
Alors, il y en a certains qui parlent de ça comme une sorte de nuage, plus ou moins, mais du coup, je comprends pas la vitesse de propagation. Et en fait, c'est un peu comme quand on essaye de dire « Hey, imagine une nouvelle couleur » ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. Et pour moi, c'est ça, en fait. Je pense pas qu'on puisse vraiment m'expliquer l'odorat, parce que je continuerai à ne pas y croire, d'une certaine manière. Je sais pas comment dire ça. C'est genre, si demain, on m'annonce qu'en fait, c'est une grosse blague et que l'odorat n'existe pas, je pense que c'est possible que j'y croie à ce moment-là. Parce que c'est juste trop gros, en fait. C'est vraiment un monde entier qui est là, invisible, d'ailleurs. Que certaines personnes vont dire oui ça sent bon, d'autres moi ça sent mauvais, d'autres donc je sais pas, on essaie de me qualifier comme si c'était une sorte de goût dans l'air, enfin goûter l'air plus ou moins, mais c'est ouais d'accord, j'y crois, enfin c'est pas que j'y crois pas, c'est juste je ne peux pas le comprendre et c'est trop gros je pense à comprendre. Il y a souvent cette question, voilà, si tu devais perdre un sens ça serait lequel? Je joue pas trop à ce jeu là parce que j'ai déjà perdu, enfin j'en ai déjà un de moins, mais les gens reviennent souvent sur ah je perdrais peut-être l'odorat. Je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point dans leur vie de tous les jours c'est très proche des émotions en fait, et de leurs souvenirs, et en fait souvent les gens ont tendance à vraiment très mal le vivre, de perdre l'odorat. Donc je suis content de pas l'avoir perdu, mais de jamais l'avoir, comme ça c'est pas un souci.
Invisible mais aussi méconnu, négligé, l'odorat est pourtant un sens qui se développe avant même la vue et l'ouïe lorsqu'un enfant naît et renifle l'univers qui nous entoure, et pour Maxime un super pouvoir digne de la science-fiction. Mais Jean-Michel Maillard l'assure, il faut l'avoir perdu pour enfin comprendre son importance.
Anosmique de naissance ou par accident pour une durée limitée ou toute la vie, un grand reportage de Gabriel Maréchaux, réalisation Pierre Chaffangeon.